Bonjour, donc on se retrouve pour cette table ronde intitulée « Prédire le droit », un sujet vaste de ma foi, mais qu'on peut peut-être encore étendre un petit peu, on va voir, on va peut-être là, faire quelque chose d'assez relâché, on va dire, dans la méthode, d'assez libre. Et c'est comme ça que je verrai les choses a priori. Voilà. Et donc pour parler de tout ça, Hugo Bellagamba, bonjour. Hugo, donc vous êtes maître de conférence en histoire du droit et des idées politiques à l'Université de Nice, et vous êtes aussi dans la vraie vie écrivain de science-fiction. Voilà. Donc vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, peut-être qu'on peut mentionner plus particulièrement « Solutions non satisfaisantes », qui était un essai sur Robert Heinlein coécrit avec Eric Pichol. Qui a été Grand Prix de l'Imaginaire, je crois. Voilà. Il y a eu Tancrède, une uchronie, qui a été prix Utopia à l'Européen, c'est ça ? Oui, voilà. Et dernière fiction en date, a priori, je crois que c'est L'Origine des Victoires. Hein. Ok. Et d'autres œuvres qu'on pourrait évoquer, comme Le Double Corps du Roi, je suppose, avec Thomas Day, tout ça. Et dans le cadre de ce festival aussi, vous avez été un directeur artistique pendant plusieurs années, donc vous êtes un habitué, on va dire. Donc on pourrait lancer le sujet. Alors, la table ronde s'intitule « Prédire le droit ». Ça donne déjà une certaine orientation, on va dire, dans un esprit un petit peu de prospective, d'anticipation, donc qui peut être aussi un peu prosaïque, terre à terre. Donc je me disais que pour introduire le sujet, parce que le droit ça peut recouvrir énormément de choses, on pouvait peut-être prendre une dimension un peu plus large, peut-être un peu théorique, qui en même temps pourrait résonner avec l'histoire du droit. Parce qu'il y a notamment, c'est toujours cool de commencer par un adage romain, alors je ne vais pas le prononcer en latin, mais en gros il y en a un qui dit « là où il y a une société, il y a du droit ». Et ça me paraît une thématique intéressante par rapport à la science-fiction, notamment quand elle s'éloigne un petit peu de notre terre ou qu'elle y jette un œil différent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cet adage aujourd'hui dans le cadre de la science-fiction ou autre ?
Très bonne présentation, très bon point de départ. Bertrand ne vous dit pas parce qu'il est modeste, mais Bertrand Bonnet a aussi fait des études de droit et même d'histoire du droit. Donc, c'est un juriste lui aussi. Et je l'engage aussi à répondre à mes côtés à vos questions qui, j'espère, viendront nombreuses. Alors, là où il y a société, il y a droit, en fait... Ben, c'est une évidence pour le juriste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société purement anarchique. Il n'y a pas de société sans règles d'organisation. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas une interrogation sur la façon dont on se comporte les uns avec les autres. Alors là où il y a société, il y a droit, ça veut dire que le droit est souvent considéré comme le signe de l'existence de quelque chose. Là où on trouve des règles juridiques, et encore quand je dis règles juridiques, on peut le voir de façon extrêmement large, c'est pas forcément des lois, parce qu'on a un peu dans notre société un défaut très occidentalo-centré, comme ça, très de penser que le droit c'est forcément des lois. Il y a des tas de sociétés dans le monde où il n'y a pas du tout de droit écrit, où il n'y a pas du tout de loi, où il y a des formes juridiques très différentes. Donc la première chose que je répondrai, c'est que il y a du droit partout. Mais, comme disait Montesquieu dans l'Esprit des lois au XVIIIe siècle, le droit est partout et partout il est différent. Donc il n'y a pas de société qui ne produise pas du droit. Et s'il y a une première chose sur laquelle on pourrait partir, c'est cette idée-là, c'est-à-dire il faut vous débarrasser complètement de l'idée que l'Occident a inventé le droit, de l'idée que nous sommes les enfants du droit romain, et nous sommes dépositaires d'un héritage d'organisation sociale extrêmement avant-gardiste, extrêmement positif, extrêmement abouti, qui serait le droit, parce que c'est totalement faux. Si on fait un tout petit peu d'anthropologie juridique, si on regarde un tout petit peu les sociétés avec non pas les œillères de notre vision, nous, à nous, du monde, mais une vision sur les règles d'organisation sociale, on trouve du droit partout, partout, partout. Et comme on ne peut étudier que l'être humain comme animal social, puisqu'on ne connaît pas l'être humain à l'état de nature, enfin jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vraiment de moyen de voir ce qu'était l'être humain avant la société, puisque les sociétés ça remonte à très très loin, et bien dès qu'on a une trace d'organisation sociale, c'est ce qui nous permet de dire qu'il y a société. Donc dès qu'on a par exemple un système de sanctions, dès qu'on a un système de légitimation du pouvoir, dès qu'on a un système d'organisation des tâches dans un groupe ou une communauté, si petite soit-elle, on est déjà dans du droit. Donc du coup, par rapport à la science-fiction, bah, Bertrand, la réponse est évidente. Il n'y a pas de science-fiction sans droit. C'est la réponse que je donnerais moi, mais je veux dire qu'on crée une société en science-fiction, tous les auteurs qui font de la science-fiction, et qui ne sont pas des juristes, hein, pas besoin d'être juriste pour imaginer des règles de droit, hein, c'est pas besoin d'être juriste pour créer des sociétés, mais tous les auteurs qui ont imaginé des sociétés, de Laurent Genefort à Alain Damasio, en passant par... ne sais pas, Ursula Le Guin ou voilà, autre, ont à imaginer des règles de droit.
Je pensais notamment à Ursula Le Guin, qui a une perspective très anthropologique dans sa fiction, donc qui rejoint le champ de l'anthropologie juridique, et dont certaines œuvres en particulier ont cet aspect qui est très appuyé, et sur des questions qui peuvent entrer en résonance avec des conceptions du droit très fluctuantes à l'heure actuelle, pleinement dans l'actualité, notamment concernant le droit des personnes et le droit de la famille, et tout ce qui est genre, sexualité, etc. On peut penser bien sûr à un roman comme La main gauche de la nuit. Dans cette optique, j'aurais envie de mettre peut-être un peu plus en avant un recueil de nouvelles qui est L'anniversaire du monde, et où justement la plupart de ces nouvelles consistent à présenter des modes d'organisation familiale totalement différents, en même temps aussi posés, légitimes, réfléchis, construits, concrets, vécus, que tout ce qu'on peut imaginer de manière un petit peu, effectivement, européocentrée, légicentriste aussi, dans une sorte de doctrinarité des Lumières, de Rousseau, tout ça, qui met la loi écrite, au centre.
Voilà. Oui, absolument. Ursula Le Guin, de ce point de vue, a fait un travail tout à fait anthropologique. Juste pour préciser, pour les gens, parce qu'anthropologie, c'est peut-être pas évident, l'anthropologie juridique, qui est une partie de l'anthropologie, c'est une science qui est née au 19e siècle, qui a dit beaucoup de bêtises au début. Les premiers anthropologues ont dit énormément de conneries. Surtout, l'idée, c'était que l'Europe était en avance sur le reste du monde, ce qui est complètement faux, mais bon, peu importe. Mais l'anthropologie, c'est une science sociale qui est la plus vaste de toutes les sciences sociales, puisqu'elle a pour mission, elle se donne pour mission de trouver, vous savez, le plus petit dénominateur commun à tous les groupes humains. Par exemple, savoir s'il y a une sanction dans toutes les sociétés qui est commune à toutes les sociétés. Si on en a une, alors on peut commencer à bâtir une théorie universelle du droit. Et en fait, c'est très difficile. Pour l'instant, l'anthropologie, qui a 160 ans à peu près, 170 ans, n'a pas réussi encore, même par exemple, quelque chose d'aussi évident que l'inceste, par exemple, eh bien, n'est pas sanctionné de la même façon dans toutes les sociétés. Donc du coup, Ursula Le Guin a travaillé, son père était ethnologue, et elle a travaillé un peu sur cette anthropologie fiction en montrant que la famille, c'est pas uniquement le modèle familial romaniste tel que nous le percevons, c'est une famille qui peut être extrêmement différente, mais que l'on retrouve souvent dans de très nombreuses sociétés, l'histoire d'une communauté restreinte, une communauté minimaliste en quelque sorte, mais qui peut être patriarcale, matriarcale, qui peut être une ensemble de parentèles par exemple. Du coup, qui dit changement de famille dit changement de filiation, qui dit changement de filiation dit changement de succession, la transmission des biens, etc. Et on retrouve les grandes branches du droit. On a dit prédire le droit, en fait, je sais pas si on peut prédire le droit, mais par exemple, ce que nous montre Ursula Le Guin, c'est qu'on est capable de penser le droit. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants. J'essaye pas de leur apprendre juste le droit romain pour qu'ils le sachent par cœur, ça m'intéresse pas du tout. J'essaye de leur montrer comment on peut penser le droit. Et si on sait penser le droit, on peut d'une certaine manière le prédire. C'est-à-dire que, par exemple, vous tous qui êtes ici, aux Utopiales, vous voyez bien quand même globalement qu'il y a des changements dans notre rapport au droit. Vous voyez par exemple, la loi n'est plus cet acte juridique sacré qu'elle était pour le 19e siècle. Vous voyez, vous n'avez pas la même peur de la loi, le même respect craintif de la loi sanctionnée par l'État qu'il y a encore un siècle ou deux, ou même une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, l'hypertrophie des lois, le fait qu'on fait des lois sur tout et n'importe quoi, on fait des lois très mauvaises, extrêmement mal écrites, complètement hermétiques, fait que petit à petit, pour des raisons profondes aussi de la société, la loi perd de sa superbe, elle perd de sa valeur, et on est beaucoup plus, moi ce que je vois surtout, avec un regard d'anthropologie, on est beaucoup plus vers une société qui est de plus en plus communautaire et de plus en plus contractuelle, c'est-à-dire qui met en avant des éléments d'organisation autonome, interne. Et là, vous avez une manière de prédire peut-être que cette évolution va aboutir ou pas. Voilà.
En même temps, puisqu'on a donc abordé cet aspect davantage prospectif sur prédire le droit, Dans un sens, on continue un petit peu sur le même thème, c'est que le droit a certaines connotations dont on se débarrasse pas toujours très facilement. Et au regard de la perspective, il y en a une qui me paraît intéressante, c'est qu'on a tendance à percevoir le droit comme, presque par nature, un peu conservateur. Enfin, qu'il a tendance à, généralement, à avoir un temps de retard. En même temps, cette vision qui peut être confirmée ou pas, c'est à débattre, on y oppose assez régulièrement des contre-exemples où l'on essaye de mettre en évidence que le droit, parfois, peut prendre de l'avance. Et non pas suivre des changements sociétaux, mais d'une certaine manière participer à les provoquer. Les exemples qu'on cite en France, par exemple notamment, c'est l'IVG, c'est l'abolition de la peine de mort ou ce genre de choses. Donc c'est une autre approche du droit qui peut aller à l'encontre de certains préjugés qu'on peut avoir contre la discipline et ce sur quoi elle porte. Ça a aussi une autre incidence, c'est qu'on ne peut pas penser le droit, je suppose, tant qu'on ne pense pas en même temps qui fait le droit. Et donc il y a tout le système de l'organisation politique qui peut être amené à être repensé par rapport à ça. Vous avez parlé d'une base contractuelle ou de ce genre de choses. Ça peut s'inscrire dans une réflexion que la science-fiction a développée depuis ses débuts, que ça soit dans un modèle, on va dire, positif, utopique, dans un modèle dystopique, craintif. C'est aussi bien l'État mondial que 1984, que Révolte sur la Lune, que le cyberpunk. Autant d'approches différentes de qu'est-ce que l'autorité politique, qui fait le droit et comment ça s'articule avec le mouvement global de la société, on va dire.
Absolument, tout à fait d'accord avec toi, Bertrand, avec vous. Je sais pas si on se tutoie, on se voit, mais en tout cas avec vous, en tout cas, d'accord. Et oui, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que le droit, il ne vient pas de nulle part comme ça. Hein, il n'y a pas de droit. Alors si, il y a ce qu'on appelle le droit naturel, mais ça, c'est un autre problème. Peut-être que d'ailleurs, il serait bon qu'il revienne un peu plus de droit naturel dans notre société. Mais nous, on est plutôt des enfants du droit positif. Alors le droit positif, c'est le droit applicable dans un pays à un moment donné. Et le droit positif, il ne vient pas de nulle part. Le droit positif, il est simplement le fruit d'une majorité politique. Dans une démocratie, c'est le fruit d'une assemblée de représentants de la nation. Dans un État totalitaire, c'est le fruit d'une décision du souverain. Le souverain est à l'origine du droit. Alors soit c'est un souverain populaire ou démocratique, soit c'est un souverain monarchique ou autocratique, mais le droit est toujours le reflet d'une volonté politique. Je vais même aller plus loin pour être un peu cynique. Le droit est au service du pouvoir. Le droit sert le pouvoir en le légitimant. Je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez faire du droit, sachez que vous serez toujours du côté de l'ordre établi. Et si vous voulez être des rebelles, si vous voulez changer la société, il faudra le faire de l'intérieur du système. Sinon, il ne faut pas faire de droit. Donc le droit, ce n'est pas un absolu qui vient comme ça, qui s'imposerait. Alors bien sûr, il a été d'origine divine hein, dans le passé, mais c'est un droit qui est le reflet de l'évolution d'une société. C'est pour ça qu'on dit toujours, et Bertrand a raison, que le droit a un effet retard, parce que il faut que la société ait changé pour que le droit change. Et le droit vient souvent attester du changement de la société. Alors, il atteste du changement de la société lorsqu'une majorité politique ou lorsqu'un souverain, lorsque le pouvoir change, décide de changer la législation. Alors, parfois, c'est un droit qui va être très progressiste et qui va donc, par exemple, aller au-devant de ce que le grand public a en tête. Par exemple, l'IVG, l'abolition de la peine de mort, des choses comme ça. Ou parfois, ça va être un droit qui, au contraire, va finalement arriver très tard et finalement valider des choses qui étaient déjà présentes dans la société depuis très longtemps. Chaque fois, cette question-là se pose. Et donc, on ne doit pas avoir une vision comme ça candide du droit. Le droit, c'est vous qui le faites, surtout dans une démocratie. Et donc, il est le reflet de ce que vous voulez que la société devienne. Et le cadre que vous lui donnez pour qu'elle le devienne. Les sanctions évoluent en permanence. À chaque loi, les sanctions évoluent. Tantôt, on va sanctionner plus une atteinte à la personne. Tantôt, on va sanctionner plus une atteinte au bien. Le vol va évoluer dans une gradation des peines de façon permanente. Et chaque loi pénale peut changer le droit. Donc le droit n'est jamais une matière inerte. Elle est toujours en mouvement. C'est un instantané des valeurs d'une société telle que cette société est capable de produire ce droit, c'est-à-dire nous, bah, par exemple, par l'intermédiaire des représentants. D'accord ? Et y a une chose qui est très importante, c'est qui m'énerve beaucoup en ce moment, c'est quand on dit le peuple et les députés, c'est pas la même chose. Vous savez, il y a une théorie de la démocratie dite participative. La démocratie participative, et ça, la science-fiction l'a montré aussi dans des démocraties directes, on peut penser par exemple à Heinlein dans Starship Troopers, évidemment, mais dans d'autres textes aussi. C'est le peuple qui fait la loi. Mais comment peut-on séparer le peuple de ceux qu'il a élus pour faire la loi. Comme si les députés, une fois élus, alors peut-être on peut dire les députés abusent, ils sont corrompus, c'est des politiques, ils font pas leur boulot, tout ce que vous voulez, mais il y a un problème intellectuel à séparer les représentants du peuple, ça n'a pas de sens. Dans un système institutionnel qui a élu des représentants, ces représentants émanent du peuple. Donc il ne peut pas y avoir de solution, de désaccord entre le peuple et ses représentants. Ou alors il faut changer de système, tout simplement. Donc la solution d'une démocratie aujourd'hui, je sais qu'elle est très à la mode, hein, la solution d'une démocratie participative, c'est-à-dire qui serait la loi directement faite par le peuple. C'est très beau. C'était l'idée de Rousseau, qui était contre les partis politiques, évidemment. Il détestait ce qu'il appelait ça les factions. Une loi directement faite par le peuple, c'est une très belle utopie. Mais dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire des lois en votant sur Internet ? Donc on va faire un texte de loi avec les réseaux sociaux ? Comment on va arriver à faire un texte de loi ? Vous voyez ce que je veux dire ?
En même temps, ce sont bel et bien des aspects que la science-fiction contemporaine a
fait. Bien sûr.
On peut penser à certains, je ne sais pas si on peut parler de modèles, mais je pense par exemple à un roman comme Dans la Dèche au Royaume Enchanté de Cory Doctorow, qui décrit pour le coup une société future telle qu'on ne l'envisageait pas encore il y a une vingtaine d'années, je pense, en posant des questions très vastes en même temps sur l'organisation politique, le rôle de chacun dans la politique et l'élaboration de la loi d'une certaine manière, éventuellement via une sorte de système de réseaux sociaux. Il y a aussi l'idée d'un revenu universel, d'une société libérée du travail. Tout ça, ce sont des choses qui s'assemblent et qui évoluent sans cesse. C'est aussi là que la science-fiction porte un regard intéressant sur le droit, parce que justement, elle témoigne de cette évolution permanente.
Absolument.
Et de ce qu'il n'y a pas un modèle figé qui devrait être de toute éternité conservé.
Absolument. Mais il est clair que la société, comme tu évoques, de Cory Doctorow, peut tout à fait arriver. Je vais même aller plus loin, elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée dans le passé. Ce type de société où il y a un lien direct entre le peuple et la loi, enfin la forme de droit qu'on a choisie, c'est l'Antiquité, c'est la cité antique, c'est Athènes, où il n'existe, et d'ailleurs Rome, où il n'existe aucune forme de représentation et où le peuple directement fait la loi.
Le problème étant quand même que dans ce cas, le peuple, c'est une portion en fait très restreinte d'un autre peuple plus vaste qui, lui, n'est pas représenté.
C'est pas la même notion de peuple, voilà. Bien évidemment. La société dont tu parles et dont parle Cory Doctorow peut très bien arriver, et le revenu universel peut très bien être applicable. Au contraire, c'est même une très très belle idée. Mais ce sera une société différente et qui fonctionnera différemment. Et je pense que ça, c'est la science-fiction, elle est capable de nous montrer ça. Peut-être pas de prédire la société que nous avons, mais elle est capable, la science-fiction, de nous montrer quelles sont les conséquences de nos choix. Je défends pas du tout, hein, moi je suis pas un aficionado du système de la représentation, hein, c'est pas du tout ça. Mais simplement, il y a derrière l'idée de représentation un élément très important. Et je pense que là, on peut pas prédire, mais on peut pressentir ce qui va se passer. Nous sommes dans une société où la distinction entre citoyen et individu est en train de tomber. Or, cette société a toujours distingué citoyen et individu. Je m'explique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 met en avant les droits de l'homme et les droits du citoyen. D'accord ? On peut donc être homme, au sens homme ou femme, hein, individu, sans forcément vouloir exercer ses droits de citoyen. La représentation, c'est ça. C'est le principe de la représentation que le 19e siècle a inventé, ce siècle dont Anne Larue dit que c'est une crevure. Je lui laisse la responsabilité de se dire, mais elle a des raisons tout à fait claires de le dire. Ça veut dire que vous pouvez choisir d'être individu et non pas citoyen. Ne pas vous impliquer dans la citoyenneté dite active. Et si vous ne faites pas votre devoir de citoyen, personne ne peut vous le reprocher puisque vous avez des droits de l'homme qui vous protègent. Si maintenant on fait une société de démocratie semi-directe, ou une société dite participative, que l'histoire a connue, et que la science-fiction nous montre dans un certain nombre de récits, un certain nombre de... La conséquence, il faut mesurer les conséquences. Et la science-fiction a cette qualité indéniable qu'elle nous met en face des conséquences. Bien sûr que notre société n'est pas du tout parfaite, hein. Le système de la représentation, c'est très décevant. Et il y a un décalage entre le ressenti des gens, le ressenti du public et le travail des députés. Mais si on prend l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a plus de distinction entre citoyen et individu. Ça veut dire donc qu'un mauvais citoyen est un mauvais individu. Ça veut dire donc qu'un citoyen qui ne ferait pas son devoir de citoyen pourrait se voir destitué de son statut d'individu lui-même. Dans une démocratie comme Athènes ou à Rome, ceux qui étaient citoyens, et c'était évidemment, tu fais bien de le souligner, loin d'être la majorité de la population, étaient en devoir de voter à l'Assemblée, en devoir d'exprimer leur vote, en devoir de participer à la vie publique. S'ils ne le faisaient pas, ils pouvaient être exposés, exclus, sortis de la cité. Alors la démocratie participative, c'est un rêve magnifique, et moi je suis pour plus de participation. On peut imaginer des sociétés où grâce aux réseaux sociaux, grâce aux tweets, dont certains font un usage un peu consternant, quoi qu'il en soit, grâce aux tweets, on pourrait voter, on pourrait dire « Nous allons voter la loi au quotidien, tous les matins je me lève et j'ai trois questions. Est-ce que cette loi doit être abrogée ? Oui, non. Est-ce que cette loi doit être votée ? Oui, non, etc. Et moi, en tant que citoyen, je vais le faire. » Mais que se passera-t-il le jour où ce vote-là sera une obligation ? Le jour où on vous dira « Tiens, tu n'as pas voté à plusieurs reprises sur le tweet du matin, c'est pas normal. Tu n'es pas un bon citoyen. » Et à ce moment-là, eh bien, l'autre côté de la barrière se révèle petit à petit, l'autre côté de l'image se révèle, c'est que si je fusionne citoyenneté et individualité et personne humaine, alors je mets en danger l'individu lui-même. Or, notre société, que nous avons encore aujourd'hui, au XXIe siècle, elle vient directement du XVIIIe siècle et de la mise en avant de l'autonomie, de la volonté de l'individu. Un individu, c'est quelqu'un qui peut dire « Moi, je ne vote pas. Je choisis de ne pas voter. Moi, j'ai pas envie de participer à cette espèce de système qui est de toute façon un système d'élite. Je ne vote pas. » Si demain on entre dans une situation de démocratie participative, on est dans Starship Troopers de Robert Heinlein, on est dans une société où seuls ceux qui ont une activité militaire et une activité sociale ont le droit à la parole. Les autres sont des sous-sujets de droit et n'ont pas le droit de participer aux grandes décisions politiques. Donc attention, avec la science-fiction, ça nous montre que parfois ce que nous souhaitons, nous ne le voyons que du côté positif. Il est facile de voir les côtés négatifs de notre système juridique aujourd'hui. La loi s'épuise, le système de la représentation est épuisé, on est dans un monde qui fonctionne mal, où il y a un décalage de plus en plus grand entre les élites et le peuple. Mais il y a des garanties. Des garanties que nous avons héritées de ceux qui se sont battus pour les construire au XVIIIe siècle, à l'époque lointaine des Lumières, qui nous semble très loin aujourd'hui. Mais si on change de société, eh bien, on aura une société différente, avec des atouts différents, mais des sanctions extrêmement différentes et pas forcément moins dures. Hein. L'exclusion, c'est quand même la pire de toutes les sanctions. Hein.
Mais j'ai l'impression que en fait, c'est intéressant parce que ça montre comment, pour en revenir au grand thème de la science-fiction en la matière, en l'espèce, la dystopie, qui a eu les grands titres qu'on cite toujours, donc le meilleur des mondes, 1984, nous, Kallocaïne, ce genre de choses. On bâtit un modèle dystopique où la menace était notamment incarnée par un État surpuissant, totalitaire, s'exprimant dans une bureaucratie avec un système technicien. Et en même temps, effectivement, le fait d'impliquer tout le monde en permanence dans de faux choix, en fait. Ce ne sont pas les choix, mais c'est simplement dire « je suis là, je suis d'accord », en fait. C'est à ça qu'on aboutit. Bon, ça, c'est un modèle qui a pu être exploré dans les dystopies, et les dystopies reviennent à la mode à l'heure actuelle. Je ne sais pas si on peut... s'il faut en avoir peur ou quoi, peut-être. Mais en même temps, là aussi, je pense qu'on peut envisager d'autres modèles par rapport à cette image donc de l'héritage des Lumières, notamment et des principes. C'est une question sur laquelle on pourra revenir pour le droit pénal. Je pense notamment il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en revenant à l'anthropologie politique, justement, ou politique et juridique, justement, elle nous décrit beaucoup de systèmes très différents et tellement différents, en fait, que j'ai l'impression qu'en littérature, la science-fiction est presque la seule voie pour les exprimer, en peser toutes les potentialités et spéculer sur ce qui pourrait être fait ou pas, sans forcément avoir un jugement moral derrière. On pourrait partir de ce que l'ethnologie a pu constater ou théoriser sur, je sais pas, la société contre l'État, par exemple, de Pierre Clastres. On pourrait aussi développer les utopies les plus folles et séduisantes en même temps de la science-fiction, comme la culture de Ian Banks.
Absolument.
Qui est une société assez paradoxal à bien des égards, parce qu'il y a en même temps ce côté technicien par la force des choses, puisqu'il est incarné par des intelligences artificielles qui ont un savoir et une une possibilité d'aborder le droit et les décisions concrètes qui sont inaccessibles aux humains à la base. Et en même temps, on parle d'une société qui a l'air totalement anarchiste, le progressiste au possible, libéral, pas au sens économique, au sens de la philosophie des Lumières véritablement. Donc voilà, il y a plusieurs modèles qui peuvent se combiner à chaque fois.
Absolument, hein. Il y a vraiment des... Alors la science-fiction a encore cet avantage-là de montrer des modèles de société qui sont parfaitement fonctionnels. Et donc une des choses dont vous devez vous libérer, c'est pas pour vous faire peur, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste pour que vous ayez conscience des conséquences. C'est pas du tout pour vous dire qu'une société participative est moins bonne. Mais il y a des modèles alternatifs de société, mais pas simplement dans la science-fiction, dans le monde entier. Hein. Malgré tout, faut pas oublier qu'il y a encore des sociétés aujourd'hui qui s'organisent complètement différemment. Alors qu'est-ce que ce serait une société sans État ? Bon, alors, une société sans État, ce serait quoi ? Déjà, ce serait une société, puisque l'État et la société sont deux choses différentes. L'État étant une sorte de structure que la société a créée pour se protéger, avec en gros deux idées très simples. L'État doit assurer la sécurité et garantir les libertés. C'est ça l'État. Donc si j'enlève l'État, et que je le remplace par exemple par des intelligences artificielles, pourquoi pas ? Si j'enlève l'État, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, je dois trouver un nouveau moyen pour garantir la sécurité et garantir les libertés. Du coup, si j'ôte l'état de l'équation, où est-ce que je vais trouver ce moyen de protection ? Eh bien, forcément, à l'intérieur de la société. Puisque, comme tu l'as très bien lancé au début, il n'y a pas de société sans droit. Là où il y a société, il y a du droit. Donc, la société va construire des règles juridiques qui vont être applicables de l'intérieur. Et là, vous avez un mot fabuleux, un mot que vous connaissez très bien, le consensus. Le consentement de la communauté, l'accord entre les personnes. Ça, on connaît ça très bien. Il y a des tas de sociétés qui sont conçues comme ça dans l'histoire, et on en trouve beaucoup aussi dans la fantaisie historique. C'est ce qu'on appelle tout simplement la coutume. Hein, la coutume, c'est, il faut arrêter de penser que la coutume, c'est pas du droit. La coutume, c'est une règle de droit tout à fait efficace. Et contrairement à tout ce qu'on nous a raconté et tout ce qu'on a véhiculé pendant des années, la coutume n'est pas une forme de droit inférieure à la loi. Au contraire, elle a une qualité indéniable, la coutume, c'est qu'elle peut évoluer au jour le jour. La coutume, elle peut s'adapter de l'intérieur de la société au consentement de la communauté. La coutume, c'est quelque chose qui vit.
Tout à fait. Mais justement, ça a une image un peu paradoxale par rapport aux représentations qu'on se fait en principe de la coutume, où dès qu'on sort de la sphère juridique, on va parler de coutume, ça va être en gros un synonyme de tradition.
Bah oui, mais donc, la tradition, c'est du droit. C'est ce que c'est la tradition ? La tradition, c'est quelque chose d'ancien mais qui est présent. Quand vous dites, par exemple, dans un repas de famille, moi je mets la fourchette, les dents en haut, et moi je mets la fourchette les dents en bas. Oui, mais dans ma famille on fait comme ça, ma grand-mère m'a appris comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, et puis la cuillère elle est pas là, elle est là, etc. Des traditions, c'est pas des choses mortes du passé. Les traditions, c'est ce que vous faites parce que c'est important pour vous maintenant, au présent. Et leur ancienneté n'est pas leur autorité. Ce qui donne une autorité à la tradition, c'est votre consentement. Vous pouvez toujours dire, non mais moi, de toute façon, je me fous de ce que faisait ma famille, je le fais plus. Mais vous le faites par tradition, et vous avez l'impression que vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. Vous vous trompez. La tradition, c'est un consentement à l'histoire. Un consentement aux habitudes et aux usages que nous avons pris dans le passé. Donc la tradition, c'est de la coutume, c'est du droit, et c'est une volonté réitérée tous les jours de faire la même chose. Donc là où elle tire sa force obligatoire, la tradition, c'est de votre volonté présente. Vous avez toujours cette impression que la tradition vient du passé, vous n'avez pas le choix, pas du tout. C'est vous qui choisissez de lui donner le titre de tradition. D'accord ? Et quand vous décidez de rompre avec les traditions, il suffit de ne plus consentir à la tradition et elle perd sa force obligatoire. Ça, c'est la coutume. Et notre société a été une société coutumière pendant beaucoup plus longtemps qu'elle n'a été une société de la loi. On pense que nous sommes les enfants de la norme, on nous rebat toujours les oreilles avec la Constitution, la loi écrite, etc., comme si de tout temps l'Occident avait été un monde de loi. C'est complètement faux. Nous sommes un monde de loi après la Révolution française, pas avant, et surtout à partir du positivisme au milieu du XIXe siècle. Je vous rappelle qu'avant 1789, 90% du droit civil, le droit des personnes, le droit des biens, c'était de la coutume. Rien d'autre. Ce qui était de l'ordre de la loi, c'était juste les institutions, le droit public, les ordonnances royales de réformation sur la justice, etc. Mais nous sommes profondément marqués par une tradition coutumière, en réalité. Donc si demain, on revenait sur une... Et on peut s'amuser à prédire ça, à imaginer. Si demain, on revenait sur une société coutumière, donc on supprime l'État, et on s'organise entre nous dans des petits groupes. On fait, par exemple, ici... On est dans l'Agora Hall. Voilà, ok. On crée la coutume de l'Agora Hall. Et on dit, c'est notre coutume, c'est notre façon à nous de nous organiser, qui n'est pas la même que la scène Chaillol ou que la scène Hetzel. Et on va donner à cette coutume une force obligatoire en la répétant, sa fameuse phrase, une fois n'est pas coutume, en la répétant de façon régulière, pendant un temps long et de façon paisible. Il ne faut pas que ce soit par la violence. Il ne faut pas qu'il y ait une partie de l'agora qui frappe l'autre partie de l'agora parce qu'ils ne veulent pas respecter la coutume. Et l'avantage de la coutume sur la loi, il est indéniable, d'une certaine manière. Et là, je fais vraiment un peu l'apologie de la coutume, c'est qu'elle ne s'impose qu'au bout d'un temps long. Donc on a le temps de prévenir de l'impact d'une coutume, alors que la loi, c'est du jour au lendemain. Donc on pourrait très bien se dire, Bertrand, on pourrait très bien, et vous tous ici, se dire qu'on abandonne la loi, on abandonne l'État qui est chargé de la sanctionner et on s'auto-organise, on s'auto-gère. On fait des sociétés auto-gérées, un peu comme on trouve dans les bouquins d'Alain Damasio aussi. On fait des sociétés auto-gérées, un peu aussi comme dans la culture finalement, les intelligences artificielles étant responsables de tout ce qui est embêtant, ennuyeux et les hommes s'organisant eux-mêmes, et on sera heureux. Il y a juste un petit problème. Il y a juste un tout petit souci avec la coutume. C'est que celui qui ne respecte pas la coutume, la seule sanction qu'il peut subir, c'est encore une fois l'exclusion du corps social. Alors que dans un système de loi, celui qui ne respecte pas la loi est jugé, sanctionné, puni, et ensuite il réintègre le corps social. C'est parce qu'il est un individu et qu'il a sa place dans le corps social, même s'il n'est pas d'accord avec la majorité. Alors que dans la coutume, si vous ne suivez pas la coutume, vous allez subir une sanction qui vient de l'intérieur du corps social, qui est extrêmement brutal et qui est l'exclusion. Et ça, dans certains romans de science-fiction, on trouve aussi cette idée d'exclusion, de mise à l'écart de la communauté, parce que l'individu est un déviant. Il ne suit pas le modèle social qu'on veut lui imposer et que la majorité a choisi.
Oui. Et paradoxalement ou pas, encore autant, mais éventuellement dans un modèle dystopique. En même temps, j'ai l'impression qu'une autre chose qui distingue assez foncièrement la loi de la coutume, alors, je m'embrouille un peu dans le terme parce que c'est une question d'impersonnalité. La loi est censée être impersonnelle, mais dans les faits, elle est identifiée à un pouvoir qui l'émet ou ce genre de choses. Et c'est aussi, j'ai l'impression, ce qui peut permettre de faire les impulsions dont je parlais tout à l'heure, quand le droit prend un petit peu d'avance sur la société pour essayer de faire quelque chose. En même temps, ça pose aussi évidemment des problèmes de légitimité politique sur la conception de la démocratie, de la représentation, etc. Mais ça montre que coutume au droit, enfin, il y a pas de système idéal de toute façon entre les deux. De toute façon, il y aura toujours des avantages et des inconvénients de part et d'autre. Mais ce caractère d'impulsion me paraissait important. Et là, j'aurais envie de rebondir sur autre chose. Parce qu'on voit bien dans cette discussion combien, le droit, c'est pas le code civil, c'est pas une décision de la Cour de cassation, c'est un ensemble de normes et toute une réflexion qui accompagne ces normes en permanence. Donc, je crois pas qu'on puisse parler de droit sans parler de philosophie du droit en même temps et d'un certain nombre de principes qu'on y accole. Des principes qui sont eux-mêmes des produits de l'histoire, donc ils sont en tant que tels très relatifs, toujours susceptibles d'évolution. Et là, on le voit par exemple, on a parlé dans le champ politique, dans la conception de la loi par rapport à la coutume. Dans plein d'autres domaines, on pourrait le voir. Et je pense qu'un aspect intéressant, notamment, c'est peut-être le droit pénal. Parce que le droit pénal, là aussi, on a un héritage des Lumières, de Beccaria, tout ça, donc de toute une théorie libérale qui met en avant l'individu, l'autonomie, le libre arbitre, ce genre de choses. On a eu aussi, plutôt dans la logique du 19e, avec notamment le développement de la criminologie, etc., l'aspect davantage positiviste, l'aspect éventuellement défense sociale qui a pu être développé plus loin. Et tout ça, en fin de compte, c'est des débats qui n'ont pas été réglés aujourd'hui et qui se posent sans cesse maintenant et que la science-fiction pose également. Si on prend, par exemple, Minority Report, c'en est une illustration assez éclatante. Quelle est la conception du droit pénal notamment, et de la sanction que peut imposer la société? parce que l'image qu'on en a, ce qui fait que Minority Report nous paraît un monde horrible, ce qu'il est sans aucun doute, c'est parce qu'on a quand même des principes libéraux qui sont fermement ancrés en nous, mais ce sont des principes qui peuvent être remis en question en permanence. On est en plein arrêt d'état d'urgence et inscription de l'état d'urgence en gros dans la loi, donc voilà, ça montre que c'est quelque chose de très concret, mais c'est que ça se passe maintenant.
Oui, Minority Report, c'est maintenant. C'est-à-dire que, non, mais je rigole pas, hein. Je rigole pas du tout, en fait. Ça me fait pas tellement rire, en fait, même en tant que juriste. Minority Report, c'est un monde, bon, qui est très fascinant, hein, où on peut finalement avoir une sorte de prédiction de la sanction, enfin, de prédiction de l'acte, pour pouvoir justifier la sanction. Ça veut dire qu'on va devoir, dans Minority Report, et si je le transpose à la réalité, avoir des comportements conformes. Un comportement qui n'est pas conforme est une présomption de culpabilité. Donc c'est ça dans Minority Report, sauf que dans Minority Report, rapport minoritaire, en réalité, on utilise des précogs, hein, c'est l'idée de Philip K. Dick, et on va utiliser des précogs pour savoir que tel crime va arriver. Mais c'est une métaphore, hein, c'est tout. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire un crime va arriver ? Ça veut dire qu'on aurait les moyens scientifiques, c'est de la criminalistique presque, on aurait les moyens scientifiques de dire... Tel individu, non pas parce qu'on voit dans le futur, ça c'est de la science-fiction évidemment, mais tel individu est prédisposé à commettre un crime. Et il est donc du devoir des institutions de le sanctionner avant qu'il ne le fasse. Et la question qui se pose, c'est donc qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'individu et de la responsabilité qui est la sienne ? Si on est responsable des actes que l'on commet, c'est pas pareil de dire ça, que de dire je suis responsable des actes que je pourrais commettre ou que statistiquement je vais vraisemblablement commettre. Et ça, malheureusement, on est en train un peu d'y arriver. On est en train un peu d'y arriver et le problème, il vient, à mon avis, à mon très humble avis, de la scientifisation du droit. C'est-à-dire que de plus en plus, le droit est considéré comme un mode d'organisation de la société qui devrait suivre un mode de production scientifique, rationalisé. Alors cette idée-là, elle est présente dans la science-fiction, évidemment, et c'est ce qu'on voit dans Minority Report, hein, puisque les précogs sont utilisés dans une police scientifique, avec tout un tas de mécanismes et de structures, de corps de métier autour qui travaillent avec les précogs. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on scientifise le droit, on va... rationaliser à l'extrême la notion d'individu. Et à partir de là, on va avoir des méthodes. Alors c'est certes la police scientifique, hein, vous connaissez tous les séries, blablabla, voilà, bon. Mais c'est pas la police scientifique qui pose le problème. C'est l'idée qu'on pourrait, par un raisonnement rationnel, être sûr à 90% qu'un individu est dangereux. Ça pose le problème aujourd'hui qui est vraiment une ulcération aujourd'hui de la communauté. C'est la récidive. Vous voyez à quel point aujourd'hui le système pénal est en stress à cause de la récidive. Hein, chaque fois qu'un individu qui a été puni pour des faits de viol, de violence, de pédophilie, d'atteinte à la personne ressort, on sait qu'il est malade, on sait qu'il a des chances de récidiver, il récidive et donc le système ne marche pas. Je vais vous dire, je vais vous provoquer, hein, je vais vous dire quelque chose de provocateur, mais la récidive prouve qu'on n'est pas dans un système de Minority Report encore. Mais si on entre dans une société où non seulement la récidive est totalement impossible, mais qu'en plus l'infraction en elle-même, devient virtuellement, on peut la contrôler, on peut la prédire. Et du coup, l'arrêter, ça veut dire qu'on est dans un monde où on aura complètement changé le rapport qu'on a à l'individu. Et le droit n'est pas une science exacte. Parce que ce qui va se passer, c'est que si le droit, et le droit pénal en particulier, si le droit devenait une science exacte, d'accord ? Imaginons, le droit est une science exacte, comme la physique. D'accord ? Donc il y a des lois physiques, il y a des lois juridiques qui ont la même valeur que les lois physiques. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que toutes les sociétés, forcément, ont la même loi. Ok ? Donc ça veut dire que la loi n'est plus le reflet d'une culture, d'une histoire, d'un corps de valeurs, d'un ensemble de crises, etc. Elle est rationalisée à l'extrême et elle devient la loi. Et dès lors, il n'y a qu'une seule loi. On pourrait même imaginer réduire le droit à une seule loi scientifique parfaite, construite selon la méthode scientifique et définitive. Bah, c'est le totalitarisme.
Oui, tout simplement. Tout à fait. Et donc là, on rejoint encore les dystopies, c'est où le juge est un ordinateur, finalement. On entre
c'est en train d'arriver, hein, tu sais qu'aujourd'hui, il y a des algorithmes capables de prendre des décisions judiciaires. Alors, on en parlait l'année dernière ici, déjà. Ils prennent des décisions judiciaires, mais ce n'est pas eux qui les prennent. Disons qu'ils indiquent au juge la décision judiciaire la plus probable, en tout cas celle que eux mettraient en avant, et le juge peut choisir de la suivre ou pas.
En même temps, justement, ce n'est pas si étonnant, parce qu'il y a quelque part un fantasme de l'image du juge qui peut remonter très loin et qui peut en même temps remonter justement à cette philosophie des Lumières. Quand on a Montesquieu qui parle du juge comme étant la bouche de la loi, voilà, on a l'idée d'un juge qui devrait être un fonctionnaire technicien, en fait. Donc il rentre des données et la décision est scientifique. C'est un système d'équations, ce genre de choses, on ne peut pas se tromper. Finalement, jusque-là, sauf dans les sociétés totalitaires, mais on ne sait jamais, on a toujours gardé finalement une sorte de, au moins une marge que le juge puisse intervenir et dire le droit. Et c'est ce qui fait que l'interprétation aussi est cruciale dès qu'on envisage le droit. C'est aussi,
La part de la libre appréciation du juge, en fait, c'est ça dont tu parles.
Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que le droit, par nature, ou du moins dans nos conceptions légiscentristes, hein, sans doute, pose des principes. Des principes en tant que tels qui peuvent être applicables à toutes les situations. Le problème, après, c'est que le juge, quand il est amené à prendre une décision, il doit prendre en compte des circonstances. Et c'est ça, finalement, qui introduit une dernière marge de liberté par rapport à une loi qui serait ultra positive, ultra scientifique, et qui ne laisserait finalement jamais le droit à l'erreur.
Mais il y a, une très belle illustration de ça, c'est sur les voitures autonomes. Hein. Vous avez entendu parler de ça, hein. Tout le monde en parle. Là. C'est un peu la tarte à la crème en ce moment. C'est-à-dire, j'ai une voiture autonome, hein. Donc elle contient 4 passagers, mais un enfant traverse. Donc le programme de la voiture va devoir décider si on écrase l'enfant pour sauver les 4, ou si on sauve les 4 à l'intérieur de la voiture et on écrase l'enfant, ou si au contraire on sauve l'enfant et tant pis pour les passagers de la voiture qui vont être blessés. Comme oui, si c'était...
Oui, vas-y. Oui, juste pour donner une référence SF, du coup, parce que ça, c'est exactement le sujet de la novella de Craig Egan, Sera
oui,
Sevesta.
Tout à fait.
Où c'est une sorte de dilemme logique, en fait, on a deux solutions inacceptables, il va pourtant falloir en choisir une, donc est-ce qu'on peut le faire par un algorithme?
Voilà, mais ça, c'est un problème logique, mais si je prends du point de vue juridique, qui vous a dit que le droit était logique? Qui vous a dit que le droit devait être logique? Mais... absolument pas. C'est un problème pour une machine, pour une intelligence artificielle complexe. Elle va devoir dire, voilà, la logique, c'est quoi? Je sauve 4 individus, mais l'enfant qui est en croissance et qui a une valeur particulière aux yeux de l'humanité, etc. Mais un juge humain est parfaitement capable de trouver une solution. Et il est même parfaitement capable d'écouter des avocats des deux parties qui vont dire, il fallait que la voiture écrase l'enfant. Et d'autres qui vont dire il fallait sauver les quatre passagers de la voiture. Et un juge humain va pas avoir du tout de problème à gérer ça. Depuis quand l'être humain n'est plus capable de gérer une situation judiciaire irrationnelle? Au contraire, c'est là où le juge prend toute sa valeur. C'est là où la libre appréciation du juge prend toute sa valeur. C'est que combien de situations juridiques sont inextricables? Enfin, un divorce. Qui a raison dans un divorce? Mais une machine pourrait jamais juger un divorce. Pour l'instant, une machine va dire « Oui, alors, on va calculer la pension alimentaire, peut-être. » Mais qu'est-ce qu'il y a de moins rationnel qu'un divorce? Et les juges sont capables de gérer des divorces, sont capables de prendre des décisions. Donc un juge humain ne sera jamais bloqué par le caractère irrationnel ou illogique d'une situation. Au contraire, il va avec courage, parce que c'est sa mission, parce que dans la société, le juge est celui qui a pas le pouvoir, hein, qui a le devoir, la charge. Être juge, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que d'être juge. C'est avoir la charge de trancher une décision, de prendre une décision qui va avoir un impact extrêmement fort sur des vies. Le juge a le devoir de faire ça. Sans justice, pas de société. C'est pas de société sans droit, mais c'est pas de société sans justice. Le juge va devoir trancher, il va le faire. Et il sait que sa décision est imparfaite. Il sait que s'il tranche en défaveur de l'enfant ou en défaveur des passagers, il sera critiqué, mais il le fait quand même. Alors qu'une machine qui va prendre une décision rationnelle, uniquement rationnelle, eh bien forcément prendra une décision logique et donc forcément elle sera mauvaise dans tous les cas.
Un autre aspect qui est intéressant par rapport à cette marge dont dispose le juge, c'est que c'est en même temps ce qui vient anéantir la possibilité d'un vide juridique. Le juge, c'est justement celui qui confère la souplesse, alors peut-être la coutume pourrait le faire d'une certaine manière aussi, la souplesse que la loi dans ses principes ne permet pas, d'une certaine manière. Donc là, le juge peut intervenir et il apporte finalement l'élément humain d'une machine qui autrement pourrait dépasser considérablement son propos jusqu'à devenir étouffante, oppressante, dictatoriale, totalitaire, etc.
Oui, l'idée c'est d'accepter l'élément humain. Il faut accepter l'imperfection de nos sociétés. Il n'était jamais dit que nous devons absolument aller vers une société de la rationalisation à l'extrême. Comme disait d'ailleurs Michel Foucault, que les juristes n'aiment pas souvent, il ne faut pas faire le procès de la raison. Il faut faire le procès du rationalisme, c'est-à-dire d'une idéologie dominante qui ferait de la raison la seule manière d'organiser la société. Or, c'est pas ça. La raison, c'est un des éléments, avec d'autres éléments, l'histoire, la religion, les émotions, tout ce que vous voulez, qui rentrent en jeu dans la décision d'un juge. Qu'est-ce que c'est qu'un juge ? C'est un être humain qui va trancher une décision. Il y a sa religion qui rentre en jeu, son parcours, sa journée, ses émotions, etc. Et le droit. La raison juridique n'est pas exclusive de l'humanité, au contraire. Donc on n'est pas du tout obligé de donner à des machines. Si on fait ça, si on donne à des machines le pouvoir de décider à notre place, on aura renoncé à l'usage de la raison. On pensera qu'on a triomphé, on pensera qu'on a fait triompher la raison de l'irrationalité. On dira, ben on est tranquille, hein. Ce sont des machines qui vont nous juger. Donc elles ne peuvent pas errer, elles ne peuvent pas se tromper, elles sont infaillibles. Mais en réalité, on aura fait l'abandon de la raison. Et une fois qu'on aura abandonné notre raison, notre usage de la raison, eh bien c'est foutu. J'ai un prof qui m'a formé, qui était un type remarquable, maintenant il est à la retraite, qui s'appelle Norbert Roulant. Il était anthropologue du droit à Aix-en-Provence, je crois que Bertrand le connaît aussi, qui dit ceci hein, dans ses bouquins, il dit « Le droit, c'est un mal nécessaire. » Voilà ce qu'est le droit, un mal nécessaire. Ça veut dire « Toute société a besoin du droit » parce qu'elle n'est pas capable d'être idéale. Donc, elle a besoin d'un mal nécessaire pour trancher les conflits.
Si je me souviens bien, c'est une conception qui apparaît aussi notamment chez Jean Carbonnier. Bien sûr. Et notamment quand il développait ces idées de flexible droit, de non-droit, qui finalement entrent totalement en relation avec les thèmes qu'on débat ici via la science-fiction, le cas échéant.
Et pour aller plus loin encore, Rome, enfin les Romains, l'Antiquité, qui est souvent une source d'inspiration importante pour les auteurs de science-fiction, hein, je prends Asimov et bien d'autres, à Rome, les juges, c'était les citoyens eux-mêmes. Hein. C'est vraiment un contresens que de penser que Rome a inventé la loi, parce que Rome avait des lois, mais très peu nombreuses. Vous savez combien de lois à Rome en 5 siècles de République ? 800 lois, en 5 siècles. Nous, on fait 800 lois en combien ? Un an, ouais, entre les directives européennes, les lois, les autres normes, etc. En 5 siècles. Donc la loi, c'était l'exception qui confirme la règle. Et la règle, c'était le droit prétorien, c'est-à-dire les actions en justice que les citoyens se faisaient les uns aux autres et qui étaient jugées par des citoyens eux-mêmes. Les juges et les citoyens n'étaient pas séparés. Chacun de vous, ici, si on était à Rome, à la République, eh bien chacun de vous peut à un moment donné être désigné comme juge, même s'il n'a pas de compétences. En termes de droit, il va devoir trancher. Et c'est la responsabilité que l'on accepte dans une société. Vous voyez, donc le juge n'est pas du tout quelque chose que nous aurions mis secondairement à la loi. C'est une erreur de le penser. Et heureusement que la science-fiction vient un peu nous rappeler ça aussi. Nous rappeler que moins de lois, c'est parfois mieux, et plus de coutumes, pourquoi pas. À condition d'accepter, évidemment, ne vous faites aucune illusion, hein, la société parfaite n'existe pas. C'est l'utopie, elle n'existe pas, c'est le cas de le dire. Tous les systèmes juridiques que vous allez expérimenter dans votre vie et qui vont changer parce que la société change année après année. Elle change pas génération après génération, hein, ça c'est de la bêtise. La société change année après année. Vous vivez dans une société qui l'année prochaine ne sera plus. Elle aura changé. La loi travail, les lois sur l'organisation de la filiation, etc., les lois sur la PMA, la gestation pour autrui, tous ces trucs qui viennent dans le débat public, on croit qu'on les contrôle et que ça ne change pas notre vie, ça change notre vie au quotidien. Et donc, la loi dont nous parlons ici sera morte demain et on aura une autre forme de société. Donc, vous allez vivre dans des sociétés très différentes. Vous l'imaginez même pas, mais celle d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 15 ans déjà.
En même temps, alors, je ne suis pas trop pour assigner une mission à la science-fiction. Ça me paraît un peu exagéré. Mais sur toutes ces thématiques-là, effectivement, elle peut constituer un laboratoire, un outil de spéculation qui peut envisager différentes hypothèses, les poser, les argumenter d'une manière très rationnelle, d'une manière plus sensible peut-être, et faire appel du coup aux réactions du lecteur à cet égard. Donc on rejoint finalement totalement la thématique. Alors, des sujets qui avaient été évoqués tout à l'heure, on a parlé de l'état d'urgence, on a parlé des changements dans le droit de la famille avec le mariage pour tous, ce genre de choses par exemple. Tout ça finalement c'est des choses qui ont pu être pensées dans la science-fiction bien avant d'intégrer le droit positif.
Mmh, absolument. Mieux que ça, la science-fiction a pensé le transhumanisme depuis longtemps. C'est cette espèce de question qu'on a de est-ce que les machines vont remplacer les êtres humains. Mais la science-fiction a résolu la question depuis longtemps. C'est simplement revenir sur la définition de ce que c'est un être humain. Si par exemple demain vous avez, et c'est le cas aujourd'hui, des êtres humains connectés, des êtres humains de Greg Egan, des êtres humains augmentés, des êtres améliorés, des cyborgs, à qui on donne les droits de citoyen, à qui on donne les droits de l'homme? Est-ce qu'on étend les droits aux machines qui nous permettent de vivre et du coup on donne les droits aux machines, ou est-ce qu'on le fait en refusant tout droit à la machine? C'est une question que la science-fiction a vue depuis Olaf Stapledon, c'est-à-dire en gros depuis le début du XXe siècle. C'est une vieille, vieille question.
Oui, et puis pour le coup, c'est une question très concrète et qui a dépassé le seul champ, on va dire, de la SF des geeks. Blade Runner vient poser par exemple ce genre de questions, et là c'est une représentation globale, courante de la science-fiction qui se posait déjà ces questions-là depuis 30 ans si on prend le film.
Mais bien sûr, pourquoi les réplicants de Blade Runner n'auraient-ils pas des droits? Et pourquoi les animaux n'ont pas de droits? Et pourquoi les machines...
C'est une thématique qu'on peut voir notamment par rapport aux animaux surévolués qui entrent en relation bien éventuellement sûr. Avec des thématiques ouais. Sur le spécisme, ce genre de choses.
Mais c'est nous qui définissons l'humain. C'est nous qui définissons ce que c'est qu'un être humain. C'est nous qui décidons à partir de quand on a affaire à un être humain et à partir de quand on a affaire à autre chose. Si nous changeons nos définitions de l'être humain, eh bien, on vivra dans des sociétés où l'humanité est composite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement l'humanité des êtres organiques qu'on appelle des êtres humains stricto sensu, mais c'est une humanité étendue aux machines, étendue aux animaux, étendue aux êtres synthétiques, étendue aux intelligences artificielles. J'ai travaillé avec un collègue qui travaille en droit international, on a fait une conférence il y a 2 ans maintenant sur citoyenneté et intelligence artificielle. Et on s'est rendu compte que on peut très bien accorder la citoyenneté à des intelligences artificielles. Dès lors qu'elles sont capables, ces intelligences artificielles, dans une hypothèse purement spéculative, de comprendre la notion de citoyenneté, pourquoi n'aurait-elle pas le droit d'être citoyenne? Et on peut très bien combiner la citoyenneté des organiques et la citoyenneté des êtres artificiels. Je vais vous prendre un autre exemple. Quelqu'un qui souffre d'un handicap et qui a besoin de prothèses ou d'un appareillage qui lui permet d'avoir une vie complète, une vie sans limite, une vie égale à celle de tout être humain doué de ses facultés normales, qui n'a pas de limite physique, eh bien, il faut étendre son humanité aux prothèses qu'il porte. Parce que ces prothèses sont une composante de son humanité. Et dès lors, on accordera des droits à des machines, non pas pour elles-mêmes, mais en ce qu'elles contribuent à donner toute la liberté nécessaire à un individu au sens plein du terme. Et moi, ça me paraîtrait pas du tout anormal d'accorder des droits à des machines grâce auxquels des êtres humains peuvent donner la plénitude de leur liberté, de leur création, de leur expression, de leur personnalité. Et c'est sans doute par là que ça commencera. Et cette diffusion, cette dilution de l'humanité, elle peut être vue comme une crise de la notion d'être humain. Quelque part, on peut craindre une déshumanisation des êtres humains au sens stricto sensu que nous sommes, mais on peut aussi la voir de façon positive. On peut l'avoir sur une humanité où bientôt le critère ne sera plus l'organe ou la notion organique, mais la capacité simplement à la raison. Pourquoi on n'aurait pas une déclaration des droits des êtres humains et artificiels, tous doués de raison? Article 1, les êtres humains et artificiels naissent libres et égaux en droit. Pourquoi pas?
Ça a dû être fait d'ailleurs. Je me demande s'il n'y a pas ça dans la Vénus anatomique.
Oui, il y a ça aussi. Crois, oui, il y a cette idée-là. Oui. Absolument.
Enfin, On va peut-être pouvoir conclure là-dessus
rapidement.
On n'a pas
fait des questions. Mais bon.
On peut peut-être en faire encore quelques-unes, je ne sais pas.
Je ne sais pas si on a la salle encore.
Ah oui, ça va être un peu tendu.
Peut-être une question, je ne sais pas. Alors, allez, une. Ouais. Oui.
Il y a une voie selon laquelle on peut, par avance, subir un châtiment et ensuite tuer la personne qu'on veut, pour lequel on a subi ce châtiment. Est-ce un mal nécessaire ? Cette loi est-elle un mal nécessaire ?
Oui. Je pense que oui. Je pense que le fait de tuer une personne et avoir subi la sanction qui permet de la tuer, c'est extrêmement mauvais, mais ça reste du droit. On est dans le juridique. Ouais. Et il y avait un monsieur là.
Très court, c'est qu'il y a eu deux trucs qui m'ont beaucoup énervé dans ce que vous avez dit. Le premier, c'est l'IVG, c'était une avancée du droit sur les pratiques. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, de tout temps, les femmes ont avorté.
Absolument.
Et c'était la dépénalisation de l'avortement. Et en fait, c'était une reprise en main par le corps médical de... une coutume des
femmes.
Absolument,
c'était
pas le truc, c'était la représentativité de les représentants dans émergent de la société. Je suis désolé, il y a 30% d'ouvriers dans la population, il y en a combien à l'Assemblée nationale et combien au Sénat?
Oui.
Et pour pas être juste dans la du coup, est-ce que vous avez le tirage au sort par exemple serait un mode de représentation qui garantirait une part d'ouvriers qui correspond à celle de la population? Est-ce que vous avez des exemples dans la science-fiction de ça?
Alors juste deux précisions. Effectivement, l'IVG et comme d'ailleurs le mariage homosexuel, hein, c'est quelque chose qui vient valider un changement dans la société. Et donc le droit valide les changements et les protège en tant que tels. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est pas simplement... voilà. Quant aux députés qui ne sont pas majoritairement ouvriers, entre guillemets, c'est un problème social. Hein. C'est un problème du choix que nous faisons au moment des députés. C'est-à-dire c'est notre société qui, dans le choix des députés qu'elle fait, n'est pas capable de mettre les députés... En 1848, les ouvriers étaient dans le gouvernement provisoire. Et en 1848, au moment de la Seconde République, les ouvriers étaient les acteurs. À côté de Lamartine, il y avait à côté des poètes, il y avait les ouvriers, qui étaient des acteurs d'une société qui a échoué finalement, puisqu'elle a débouché sur le Second Empire. Donc c'est notre responsabilité.
Ça n'a pas duré.
Et le tirage au sort, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas trop. Le tirage au sort, c'est la démission quelque part. Ça peut amener à des résultats intéressants. Mais confier l'avenir d'une société au hasard, je ne sais pas.
Par contre, oui, justement, c'était là que je voulais intervenir. Oui, par contre, il y a clairement des exemples de ça dans la science-fiction, mais qui peuvent après, comment dire, déboucher sur des idéologies politiques en fait très très différentes. Parce que, sauf erreur, c'est quelque chose qu'il y a dans le Non-A de Van Vogt, c'est quelque chose qu'il y a dans Loterie solaire de Philippe K. Dick. Dans d'autres, il y a Les joueurs de Titan aussi de Philippe K. Dick, où là c'est via le jeu, donc c'est plus tout à fait la même chose, mais
il y a aussi une belle nouvelle de Asimov, où il y a un tirage au sort d'un seul citoyen, qui s'appelle Le Votant. C'est une très belle nouvelle d'Isaac Asimov. Le Votant, une fois par an, un seul des milliards de millions de citoyens, etc., un seul est choisi au hasard. Il répond à des questions du type « Quelle est la couleur des chaussettes que vous préférez ?» Bon, bleu, vert, etc. Et on lui dit « Merci, vous avez voté. » Et ensuite, le système évolue. En réalité, il n'évolue pas. Le tirage au sort, moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Quoi. Et d'ailleurs, même à l'université, il n'y a rien de pire que le tirage au sort. Voilà. Voilà. Oui, on coupe. Merci à vous. Et merci Bertrand. Merci.
Merci.